Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Nicolas Brousse.
Bienvenue dans Accent du Monde, réalisé par Valentin Vaner. Plus qu'une émission, une vitrine de l'une des grandes forces des RFI, ses rédactions internationales. La preuve par trois ce soir avec Ligia Anjos de la rédaction Lusophone. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous célébrerons les 50 ans de la CEDEAO, un anniversaire dans un contexte assez particulier pour ne pas dire carrément tendu. Asbel Lopez de la rédaction Hispanophone. Bonsoir.
Hola.
Vous reviendrez sur le bras de fer entre le président américain Donald Trump et l'une des plus prestigieuses universités US, Harvard. Nasser Etemadi de la rédaction Persane, bonsoir.
J'apprécie.
Zoom avec vous sur les relations entre la France et l'Iran qui se tendent, notamment à cause de la Palme d'Or décernée samedi dernier lors de la clôture du Festival de Cannes. Mais pour commencer, un sujet traité par toutes nos rédactions, en l'occurrence la loi sur la fin de vie en France. Ce mercredi 28 mai, le Parlement français a franchi une étape importante en adoptant en première lecture une loi sur la fin de vie. Cette loi vise deux objectifs, garantir un meilleur accès aux soins palliatifs, là ça ne fait pas trop débat, et surtout permettre une aide à mourir, une forme d'assistance médicale à la fin de vie, mais Ligia, encadrée par des critères stricts.
Tout à fait Nicolas, ce texte marque un tournant. En France, la législation n'autorisait jusqu'à présent que la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, uniquement dans certains cas précis. Désormais, il pourrait devenir légal pour une personne atteinte d'une maladie incurable de demander explicitement à mettre fin à ses jours avec l'aide d'un médecin. Mais attention, le cadre reste très strict car la personne devrait être consciente, souffrir de manière insupportable, sans espoir de guérison et formuler cette demande de manière libre et éclairée. Ce débat soulève donc des questions éthiques, philosophiques. Il touche à la définition même de la dignité humaine, à la liberté individuelle face à la souffrance et au rôle que la médecine peut ou ne peut pas jouer dans ce dernier acte de vie.
Et malgré ce cadre très strict, il y a donc débat, une réflexion qui n'est pas propre à la France. Elle traverse toute l'Europe où les positions varient d'un pays à l'autre.
Tout à fait. Prenons l'exemple du Portugal. Là-bas, la question de la fin de vie a aussi agité le débat public pendant de nombreuses années. Après 4 tentatives et plusieurs vétos présidentiels, une loi légalisant à la fois l'euthanasie et le suicide assisté a été définitivement adoptée en Portugal en mai 2023. Cette loi portugaise autorise un patient atteint d'une maladie grave et incontournable, incurable, provoquant des souffrances durables et insupportables, à demander soit le suicide assisté, où le patient administre lui-même la substance létale, soit l'euthanasie où un professionnel de santé réalise l'acte. Plusieurs garanties sont exigées, l'avis de plusieurs médecins, un suivi psychologique et un processus en plusieurs étapes. C'est une législation parmi les plus avancées en Europe, avec celle des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg.
Mais cette avancée législative s'est tout de même accompagnée là-bas aussi de fortes résistances, Ligia.
Tout à fait, Nicolas. Au Portugal, l'Église, certains partis politiques et de nombreuses voix médicales ont exprimé leurs oppositions, comme en France. Ces critiques reposent sur des inquiétudes éthiques majeures, le risque de pression sur les plus vulnérables, le glissement progressif de critères, la banalisation de l'acte de mourir. D'autres encore posent une question fondamentale. La société doit-elle organiser la mort, même si elle le fait avec compassion? En France comme au Portugal, ces lois ne sont pas seulement des textes juridiques, ce sont des miroirs de nos valeurs collectives, de réponse à une question que beaucoup redoutent, mais que personne ne peut éviter. Comment accompagner la fin de vie avec humanité, respect et responsabilité?
Et au sujet de cette question, de ce vote de l'Assemblée nationale française, Nasser, vous avez interrogé Fariba Sarahi, documentariste en Grande-Bretagne, autrice du livre « Droit de vie, droit de mort », et vous lui avez demandé ce qu'elle pense de cette décision prise en France. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Elle dit, personnellement, je soutiens ce type de décision. Pour elle, ces lois donnent avant tout aux personnes le droit de mettre fin librement et volontairement à des souffrances devenues insupportables à cause de maladies incurables. Elle ouvre, d'après elle, la voie à une forme de libération, avant tout face à la douleur.
et vous lui avez posé une autre question. Ne risque-t-on pas, en reconnaissant ce droit, de banaliser le suicide pour d'autres personnes dans d'autres contextes de souffrance ?
Exactement, écoutons-la.
La réponse est non.
La réponse est clairement non. D'après elle, selon elle, la loi distingue strictement le suicide de droit à mourir librement. Les pays qui ont légalisé cet état à mourir l'ont réservé aux personnes atteintes de maladies incurables. Elle rappelle que ce droit ne s'applique pas à ceux qui vivent des détresses psychologiques liées à la pauvreté, au chômage ou à des échecs personnel de tout genre. Et cela nous ramène, d'après elle, à une question fondamentale. Doit-on, dans tous les cas, supporter la douleur des maladies incurables ou a-t-on aussi le droit de choisir de s'en libérer ?
Alors, pour traiter d'un sujet, on choisit des angles dans une rédaction. Asbel, votre rédaction a choisi l'angle cinéma. Pourquoi ? Quel rapport entre la loi sur la fin de vie et, un petit truc en plus, le film français qui a eu un énorme succès en salle l'année dernière ?
Oui, on a fait 10 800 000 entrées, c'est énorme. Le film met en scène des acteurs en situation de handicap mental dans les rôles principaux. C'est drôle et les personnages sont touchants. Le film a soulevé une vague d'espoir chez les personnes en situation de handicap. La société française a ri avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Mais un an après, cette loi vient enterrer ses espoirs. C'est d'ailleurs une personne en situation de handicap qui a fait le rapprochement entre le film et la loi. Elle sent que l'approbation de cette loi en première lecture montre une autre face de la société. Avant, cette personne avait une bonne image d'elle-même, presque comme l'un des héros du film. Désormais, elle craint de devenir une paria.
Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a cette telle crainte ?
Car la pression sociale autour de leur utilité ne fera que croître. La lutte quotidienne pour vivre avec un handicap, applaudie hier, sera huée demain. Fin de vie, euthanasie, suicide assisté, vous pouvez jouer sur les mots, mais en tout cas, c'est légal, pas d'entrave, alors quand est-ce que vous partez ? Des associations s'inquiètent que des personnes atteintes de maladies graves et incurables, et qui ont donc droit à l'aide à mourir, puissent devenir des victimes de cette loi si permissive. Pour de nombreuses personnes en situation de handicap et pour leurs proches, la société risque de devenir un endroit terriblement froid et dangereux.
Voilà pour ce sujet à retrouver dans toutes les langues quand vous le voulez sur notre site internet rfi.fr.
20
часов в Париже, 20 в Нicolas Brousse.
Et nous revenons avec vous, Ligia, sur l'anniversaire cette semaine de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cinquantenaire, née en 1975 à Lagos, au Nigeria, elle visait une intégration économique et politique entre les pays de la sous-région. Mais l'anniversaire a un goût amer dans un contexte de fortes tensions.
Tout à fait. Oui, parce que trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quitté l'organisation après des coups d'État. La Mauritanie avait déjà pris ses distances en 2000. Comment célébrer l'unité régionale quand cette unité est justement mise à mal ? C'est la question que nous avons posée à Boularminou Silva. Il est ambassadeur du Cap-Vert auprès de la CEDEAO et qui nous décrit l'ambiance des festivités à Lagos.
Il va y avoir une première phase qui sera reconstitution de l'acte de signature.
Que nous dit l'ambassadeur ?
Il raconte le déroulement des festivités à Lagos mercredi avec une première phase qui est la reconstitution de l'acte de signature du protocole de 75 et ensuite une seconde phase qui est la célébration proprement dite où tous les représentants, les États membres, les invités étaient présents. Une célébration symbolique donc avec la reconstitution de l'acte fondateur, la présence d'anciens dirigeants de l'organisation et un retour sur l'histoire. Mais comment le souligne, comme il souligne Boularminou Silva, il est difficile d'ignorer les absences, donc ces trois pays qui ont tourné le dos à la CEDEAO.
Et justement, ce 50e anniversaire est peut-être aussi un moment pour repenser l'unité et les fondements de cette intégration régionale.
C'est justement le regard que nous apporte Mamadou Jao, lui qui est ancien commissaire guinéen de la CEDEAO pour l'éducation, la science et la culture. Il pointe les détails concrets de cette intégration.
Les défis d'intégration continuent énormes. Et surtout, de circulation de personnes et
Que nous dit-il déjà ?
Il nous raconte que le problème de la circulation des personnes et des biens n'est même pas résolu à l'intérieur des pays eux-mêmes. Alors à l'échelle de la communauté, le défi est encore plus grand. C'est quelque chose qui reste davantage au niveau du discours que dans la réalité. Concrètement, même 50 ans après, la libre circulation des personnes et des biens, qui est un pilier fondateur de la CEDEAO, reste difficile. L'organisation avance, mais lentement, freinée par des réalités du terrain, les lois nationales, le manque d'infrastructures, une intégration qui reste plus souvent un discours qu'une réalité vécue par les citoyens. Même Mamadou Diaw revient aussi sur une autre difficulté, les rapports de force internes à l'organisation, notamment par rapport aux langues.
Les langues, évidemment, c'est une thématique qui nous intéresse dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Mamadou Diaw sur ce thème ?
Mamadou Diaw, l'ancien commissaire de la CEDEAO guinéen, nous dit qu'il a toujours exigé que le portugais ait le même statut que d'autres langues. Le poids du Nigeria et de l'anglais est visible. Avec seulement 2 pays lusophones sur 12 membres actuels, le portugais reste souvent mis de côté au profit du français et surtout de l'anglais. Le Nigeria, pays hôte de l'organisation et géant régional, exerce une forte influence, ce qui alimente parfois un sentiment de déséquilibre entre les États membres. Ces 50 ans ne sont donc pas qu'un anniversaire, comme tu le disais, Nicolas, c'est un moment de bilan. Il y a eu des avancées, un marché commun, des projets de corridors de transport, une reconnaissance par l'Union africaine comme région dynamique, mais les défis restent majeurs. L'instabilité politique, fracture linguistique, manque de cohésion. Pour que la CEDEAO tienne encore 50 ans, elle devrait peut-être transformer ses principes en réalité concrète pour les citoyens.
50 prochaines années à suivre sur les antennes des RFI, bien sûr. Nasser, des tensions, il y en a également entre la France et l'Iran, et ces derniers jours, elles se sont même intensifiées. D'abord à cause d'une plainte déposée par la France contre la République islamique d'Iran devant la Cour internationale de justice. Paris proteste contre le sort de 2 citoyens français détenus en Iran depuis 3 ans. Un sort qu'elle qualifie d'otage d'État en Iran.
Ensuite, il y a la crise. Cette crise a pris une autre tournure après que le cinéaste iranien Jafar Panahi, bien connu pour ses engagements, a reçu la Palme d'Or pour un film tourné clandestinement en Iran et qui s'interroge sur le sort des dirigeants iraniens après la chute, dit-il, inéluctable du régime islamique.
La Palme d'Or, c'est un choix d'artiste. Ce qui a déclenché la colère de Téhéran, c'est le message de soutien du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qu'il a adressé à Panahi, le félicite et il lui souhaite la victoire contre l'oppression.
Exactement. Téhéran a réagi en convoquant le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Téhéran. La France a aussitôt convoqué à son tour le chargé d'affaires iranien à Paris.
Et sur cette crise, vous avez interrogé Hamid Assefi, journaliste et analyste à Téhéran.
Exactement. Écoutons-le. Hamid Assefi rappelle d'abord que les dirigeants iraniens ont été accueillis eux-mêmes en France dans les années 1978-1979, ce qui a permis à Ayatollah Khomeini de mener sa révolution contre l'ancien régime. Pour lui, les dirigeants actuels d'Iran ne comprennent pas que la France est un pays pluraliste où toutes les opinions peuvent s'exprimer librement, y compris des islamistes à l'époque contre Shah.
Mais alors, que cherche Téhéran avec ses prises d'otages ?
Selon Assefi, il s'agit d'une diplomatie de rançon de la part du régime iranien, c'est-à-dire faire pression sur la France pour qu'elle se taise sur la violation des droits de l'homme en Iran et tenter de bloquer le retour des sanctions internationales dans le cadre de l'accord nucléaire qui expire bientôt.
Et on va écouter encore Hamid Assefi puisqu'il revient sur le message de soutien de Jean-Noël Barrot à Jafar Panahi dont je vous parlais, message de soutien après sa Palme d'Or.
Pour Assefi, en fait, ce message, le message du ministre français des Affaires étrangères, est tout à fait naturel. Mais ce qui aurait été encore plus logique, dit-il, c'est que le ministre iranien de la Culture félicite à son tour Panahi lui aussi. Mais évidemment, c'était impossible. Comment le régime aurait-il pu saluer un cinéaste qu'il a lui-même emprisonné et privé de ses droits depuis 15 ans simplement parce qu'il voulait faire des films ?
Et c'est bien là le cœur du problème.
Exactement, selon Assefi, ce qui est insupportable pour le régime iranien, c'est que Panahi, poursuivi dans son propre pays, reçoive la palme d'or puis le soutien officiel d'un ministre français. D'où les accusations d'ingérence et d'insultes lancées par Téhéran à l'encontre de la France.
Asbel, le rêve américain est-il en train d'en prendre un coup avec ce bras de fer entre Trump et la prestigieuse université de Harvard ? L'administration Trump a annoncé qu'elle ne va plus délivrer de visa pour les étudiants étrangers. Même Pékin s'en est inquiété. Alors d'abord, Asbel, pourquoi cette mesure ?
Parce que les visas sont la nouvelle arme de l'administration Trump. Ne pas délivrer de visa peut avoir des lourdes conséquences financières pour les universités. Parmi les plus affectés par cette décision, il y a les étudiants chinois. Pékin s'en est inquiété officiellement. Mais pour faire plier Harvard, Trump pourrait avoir recours à d'autres mesures. Notre collègue Paul Estagnol a interviewé à ce propos Gonzalo Giribert. Il est professeur de biologie organique et évolutive, ainsi que le directeur du musée de zoologie comparée de Harvard.
Retirar 450 millones o 500 millones de dólares en proyectos de investigación es muy
grande. Vu son CV, on sent bien qu'il est concerné. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Eh bien, retirer 450 ou 500 millions de dollars de projets de recherche, comme cela a déjà été fait, c'est énorme. Mais le gouvernement menace aussi de prendre d'autres mesures qui auraient un impact économique encore plus lourd. Par exemple, imposer une forme de taxe sur la fondation de Harvard ou lui retirer le statut d'exonération fiscale qu'elle a toujours eu.
Mais alors pourquoi partir en guerre contre Harvard, mais aussi d'ailleurs contre d'autres universités tout aussi prestigieuses qui contribuent au soft power américain ?
Eh bien, le camp républicain reproche aux grandes universités américaines de promouvoir des idées d'extrême gauche jugées trop progressistes. Les républicains dénoncent deux dérives majeures, l'antisémitisme et le wokisme. Un antisémitisme présent même avant l'attaque terroriste du 7 octobre, mais qui a empiré depuis. Et le wokisme, érigé en norme depuis plusieurs années. Cette idéologie qui voit des oppresseurs et des opprimés partout et qui a remplacé le marxisme sur les campus.
Mais qu'est-ce que Harvard répond à toutes ces accusations ?
Eh bien, je vous propose d'écouter à nouveau Gonzalo Giriver qui évoque une investigation interne. Que nous dit-il ?
Eh bien,
l'université prend très au sérieux ces accusations, car toute accusation de partialité à l'encontre de quelque groupe que ce soit est prise très au sérieux. Harvard a mené une enquête interne et celle-ci a conclu qu'il n'y avait pas plus d'antisémitisme que d'attaques contre les musulmans. En effet, dans ce rapport, l'université s'inquiète du montée de l'antisémitisme sur le campus, en particulier depuis le 7 octobre. Plusieurs étudiants et enseignants juifs disent se sentir isolés, parfois pris pour cible ou empêchés de s'exprimer. Mais, toujours selon ce rapport interne, ce climat ne concerne pas uniquement les membres de la communauté juive. Les actes antisémites ne sont pas plus fréquents que d'autres formes de discrimination, qu'il s'agisse d'islamophobie, de racisme anti-arabe, anti-noir ou encore d'hostilité envers les personnes LGBT. Pour Harvard, se concentrer sur une seule forme de haine, c'est risquer de cacher les autres. Or, juste après l'attaque sanglante du Hamas, cependant, à Harvard comme ailleurs, les appels à la destruction d'Israël se sont multipliés, les manifestations avec des propos antisémites aussi. Pendant plusieurs jours, il y avait des raisons de craindre pour l'intégrité physique des étudiants juifs. Et puis, il y a eu une déclaration qui a marqué les esprits fin 2023. L'ancienne présidente de Harvard, Claudine Gay, s'est vue poser cette question. Est-ce que appeler au génocide des Juifs viole le règlement interne sur le harcèlement de Harvard ? Et sa réponse a été « cela peut » en fonction du contexte. C'était pour certains une preuve incontestable d'un relativisme moral qui a laissé la porte ouverte à toutes sortes de dérives.
Et certains ont dénoncé que derrière cette guerre de Trump contre les universités, il y a aussi une guerre contre la science et le savoir en général. Mais alors là, je vous renvoie à nouveau sur notre site internet RFI.fr. C'est un dossier que l'on suit avec toutes les rédactions. Ligia Anjos, Nasser Etemadi et Asbel Lopez étaient les accents du monde de cette semaine. Émission à retrouver quand vous le voulez, en podcast et sur nos applications, notamment RFI Pure Radio. Merci d'avoir été là. À suivre les dessous de l'Infox dans 30 secondes avec Sophie Malibaud sur la Radio Mondiale.